Chapitre 16. Seignon les attendait dans leur bureau, au premier étage de la caserne dans le 20e arrondissement. Il venait de punaiser sur le tableau en liège les photos fraîchement sorties de l'imprimante.
« Je viens de les recevoir par email, » indiqua-t-il.
« Cette nuit, tu as dit ?» récapitula Alexis en entrant.
« Dans la région de Cracovie, dans le sud de la Pologne. »
« Comment ça se fait qu'on soit prévenu si vite ?» s'étonna Ludivine.
« Coup de bol. Un des flics locaux est le correspondant Interpol du secteur. Il a vu passer notre note il y a peu de temps, celle avec le symbole. Quand il a vu le corps, il a reconnu le mode opératoire et le même dessin. Étoileux. »
Alexis s'approcha des photos. La tête permettait d'identifier que c'était une femme, et un sein également. Pour le reste, ce n'était qu'un amas de chairs éventrées. De la gorge jusqu'au sexe, rien qu'un chaos vermillon. Comme si une grenade avait explosé dans son estomac.
Ils ont des indices, des témoins ?
Pas encore. Thomas, mon contact, me tient au courant.
On a le profil de la victime ? Sans qu'il eût divine.
Apparemment une prostituée. Elle tapinait toujours dans le même coin. La banlieue industrielle de Cracovie. Elle a été retrouvée à l'entrée d'une forêt, près d'un village, à une quinzaine de kilomètres de là.
Une autoroute à proximité? Seignon s'installa derrière son ordinateur. Et après quelques clics sur Google Maps, il tourna son écran vers ses deux collègues.
Le 40, à 8 kilomètres.
Un chauffeur routier? Devina Ludivine. Ces trois victimes françaises étaient toutes à moins de 30 kilomètres de la 4, autoroute qui file vers l'est. Tu la prolonges un peu et tu arrives à Cracovie.
Je lance une demande spécifique vers les flics d'Allemagne,
fit Seignon en récupérant son ordinateur.
Si ça se trouve, cet enfoiré est passé à l'acte chez eux et on n'a rien vu.
La note à Interpol a déjà été publiée, rappela Ludivine.
Tu la regardes toutes avec une réelle attention, toi?
Elle inclina la tête pour signifier qu'il n'avait pas tort. Alexis auscultait à nouveau la demi-douzaine de photos. Après ce qu'il venait de vivre à Louvciennes, le papier glacé créait une distance avec ses émotions, son empathie, qui était la bienvenue. Bien que l'ampleur du carnage déformât les lignes de son corps, Alexis nota que la fille était forte, comme les trois précédentes. Il y avait une constante dans le choix des victimes. La bête les préférait bien en chair, pulpeuse. Cette fois, le « étoile E » avait été gravé sur son front, bien en évidence. Il tapota un gros plan d'une cuisse dont avait été arrachée une très large portion de chair. La blessure était arrondie et des filaments de muscles pendaient sous une pellicule jaune de graisse. « On dirait une morsure de requin », s'exclama-t-il.
« C'est un peu ça »,
répondit Seignon en cessant d'écrire pour s'enfoncer dans son siège. « On a un retour des dentistes et services de stomato des hôpitaux à propos de l'empreinte dentaire de ce type ?»«
Négatif », répliqua Seignon.
L'expert a parlé d'une pratique en vogue dans les milieux gothiques, en Allemagne notamment, rappela Ludivine. Celle de se faire tailler les dents en pointe. Alexis observait la blessure avec attention. Toute la chair avait été enlevée. Il avait fallu une sacrée pression. Une mâchoire humaine ne pouvait avoir causé autant de dégâts. Je doute que ce soit ça, murmura-t-il. Il avait refusé d'entendre l'hypothèse de Seignon à propos d'un animal. Mais il fallait se rendre à l'évidence face à cette nouvelle attaque. Aucun homme n'était capable d'une amputation pareille avec ses dents. Pas cette fois. Il manquait un trop gros morceau. Il aurait eu la bouche la plus grande du monde, et la mâchoire la plus puissante aussi. « Seignon, je crois qu'il va falloir étudier ta piste, avoua-t-il. Celle de l'animal. » Le colosse était au fond de son siège, mal à l'aise. « Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» s'étonna Alexis. « Tu n'y crois plus maintenant ?» Son collègue soupira.
J'ai pas attendu pour creuser cette voie, admit-il. Et la réponse est formelle. Ce n'est pas une mâchoire d'animal connu.
Pardon ? S'étrangla Ludivine.
Contrairement à vous, j'ai refusé de laisser tomber si vite cette option. Alors j'ai profité de mon dimanche pour contacter le Muséum d'histoire naturelle. Et ils sont catégoriques. L'empreinte ne correspond à aucun mammifère répertorié. J'en ai eu la confirmation ce matin.
Ludivine pesta.
Qu'est-ce que ça veut dire, ces conneries ?
Ils disent que c'est pas un animal, et l'odontologiste affirme que ce n'est pas un humain. C'est quoi alors ?
Seignon avait les bras grands ouverts devant lui.
Rien de connu.
Il y en a forcément un qui se gourre, insista la gendarme. Pas de poils, ni d'empreintes animales sur aucune scène de crime. J'opte pour la déformation d'une mâchoire d'homme.
En plus, ça expliquerait qu'enfant, il se soit senti rejeté. Sentiment de frustration, construction psychologique instable, et aujourd'hui, il se libère de toute cette rage contenue. Cliché, mais c'est souvent la réalité. Qu'est-ce que t'en penses, Alex ?
Pourquoi pas ? Répondit-il, l'air absorbé.
À quoi tu réfléchis comme ça ?
Demanda Seignan.
À défaut de comprendre comment il fait ses morsures de plus en plus marquées, il faut s'intéresser à ce qu'elle raconte de lui.
C'est exactement ce que j'étais en train de dire, grogna Ludivine.
Tu ne m'écoutes pas.
Alexis l'ignora et poursuivit sur sa lancée. Il a un besoin dévorant de l'autre, d'absorber sa victime. Rappelez-vous qu'il part avec des fragments d'elle. Il y a des morceaux entiers qu'on ne retrouve pas.
Les fameuses morsures, dit Seignan tout bas. Il les bouffe.
C'est une supposition ? Concrètement, on n'a aucune preuve qu'il les mange, rappela Ludivine.
Mais ça se tient. L'état des cadavres est assez révélateur de son état d'esprit. Il est enragé. Il veut détruire l'image féminine de ses victimes. Il les saccage jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Il les bat jusqu'à briser tous leurs os. Il les ouvre, il les répand. C'est d'une barbarie qui, à ce point-là, devient un langage.
Il ne s'en prend qu'à des femmes, et a priori, ce n'est pas pour les violer, même s'il mutile leur partie génitale.
C'est vraiment l'image féminine qui l'attire, ajouta Ludivine en se prêtant au jeu.
Exact. Maintenant, pourquoi les mordre ? Pourquoi les manger ? Pour être moins seul ?
Souvent, les cannibales sont des êtres d'une solitude extrême, qui avalent l'autre pour qu'ils soient en eux.
Ce qui me surprend, c'est le décalage entre la frénésie de ces crimes au moment même de l'acte et la minutie qui les encadre.
Il s'assure d'être loin de tout témoin. Il prend soin de ne pas être repéré par les caméras de surveillance du secteur. Il ne laisse que très peu de traces derrière lui, et même pas d'ADN. Pas un cheveu ni un poil. Pas de peau sous les ongles de ses victimes. Rien.
Un des légistes a remarqué d'infimes lésions sous les ongles d'une des filles.
Il pense qu'on a gratté pour y retirer tout matériau compromettant, se souvint Ludivine.
C'est une preuve de sang-froid, ça.
On a tout de même des marques de pneus et une empreinte de chaussures, rappela Seignan.
C'est rien du tout,
s'excita Alexis, pris au jeu des déductions, et énervé de pressentir qu'il y avait peut-être sous leurs yeux quelque chose, sans parvenir à définir quoi.
Avec toute l'agitation autour de ses victimes, il devrait au moins perdre quelques cheveux, se blesser lui-même, mais non, il ne jouit même pas.
Il met peut-être une capote ? Proposa Ludivine.
J'en doute. Il a un rapport extrêmement charnel avec elle, au point de les mordre. Il a besoin de les sentir. Je crois tout simplement que la dimension sexuelle de son acte n'est pas dans la pénétration, et la jouissance même, plutôt dans l'explosion d'émotions au moment de tuer.
Soudain, Alexis fronça les sourcils.
Qu'est-ce qu'il y a ?
S'inquiéta sa collègue.
Il se précipita vers son bureau. On a les rapports des autopsies quelque part ?
Seignan lui tendit une pile de dossiers, dans des pochettes de couleur crème.
Et trois sont là !
Alexis sumecta l'index et tourna les pages à toute vitesse, pour retrouver ce qu'il cherchait. Après quelques hésitations, il s'arrêta sur un paragraphe du légiste, qu'il martela du bout du doigt. Ensuite, il chercha dans le rapport de la victime suivante, puis de la troisième.
Elles ont toute la cage thoracique défoncée, mais de l'intérieur. Les côtes fendues, parfois cassées, distension extrême du plastron sternocostal, la peau déchirée.
Où veux-tu en venir ?
Ce n'est pas un hasard s'il tue des femmes d'une large corpulence. Il en a besoin.
Besoin ?
Répéta Ludivine. Alexis hocha la tête en se levant sous l'effet de l'excitation.
Il les mange pour se sentir plus proche d'elle. Il se frotte à elle. Il les mord parce qu'il ne peut s'en empêcher.
Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, ça ne vous est jamais arrivé d'être tellement ivre de l'autre que vous voulez vous frotter, presque entrer en lui. C'est ce qu'il fait. Concrètement, il les ouvre et les vide pour se glisser à l'intérieur. Il se recroqueville en elle, tant bien que mal. Et forcément, même s'il ne met qu'une partie de son corps, elle craque de partout.
En elle ?
Fit Ludivine en grimaçant de dégoût.
Pourquoi ? Voulut savoir Seignan. Même un taré ne rentre pas dans sa victime. Pas lui. Pas tout entier, c'est complètement aberrant.
C'est sa construction. Il détruit l'image féminine probablement en réponse à ce que sa mère lui a fait subir. Et pourtant, dans le même temps, il cherche à revivre sa naissance. Se cacher du monde dans le ventre d'une femme. Fuir la réalité. Ou peut-être renaître pour avoir une seconde chance. De notre point de vue cartésien, ça paraît démentiel. Mais c'est une réponse de son esprit à des traumatismes d'enfant.
Sa psyché s'est enfoncée dans les marécages de la violence pendant sa construction. Du coup, elle est instable aujourd'hui. Corrompue dans ses fondations même, pourrie, et elle le fait vivre sur un socle instable. Il s'est bâti un raisonnement qui lui est propre, qui lui a permis de survivre à tout cela, mais qui n'est pas adapté au nôtre, à celui de notre société.
Pointure 36, se souvint Seignon. C'est bien son pied. Il chausse petit car il est minuscule. C'est pour ça qu'il parvient à se mettre en elle.
S'il est si petit que ça, il est très ingénieux pour parvenir à la maîtriser, commenta Ludivine.
On en revient à ce paradoxe, entre préparatif et démence sanguinaire au moment du passage à l'acte. Il retrouve son sang-froid après le crime à une vitesse incroyable.
Un silence plombant tomba sur la pièce. Aucun ne parvenait à s'empêcher d'imaginer la bête en train de se glisser de force dans l'abdomen ouvert de ses victimes. Une gymnastique abjecte, monstrueuse, vouée à l'échec, au cours de laquelle le costume de chair et de peau trop petit se déchirait de plus en plus. Et toujours la même frustration chez le tueur. Une quête impossible. Le besoin de recommencer, encore et encore, dans l'espoir de parvenir un jour à être dans l'une de ces femmes. À l'abri, caché du monde, en sécurité, protégé, paré pour revenir au monde, lavé de ses traumas, de ses pulsions. Un homme meilleur.
Seignon tendit la main vers les photos.
Et il passe à l'acte en même temps que son petit camarade maintenant.
Alexis acquiesça. Ils se sont mis d'accord. Je ne crois pas une seconde au hasard.
C'est quoi? Un moyen pour eux de nous narguer?
Le fantôme a laissé une sorte de message à notre intention, confirma Ludivine. Cette fois, ils voulaient agir en même temps. Il n'y a plus de compétition entre eux.
Et le fantôme s'en prend à toute une famille, fit Alexis. C'est son crime le plus parlant sur lui-même. Non seulement les deux tueurs se coordonnent, mais on touche de plus en plus à leur personnalité. À ce pourquoi ils sont ce qu'ils sont. À la raison de leur déviance.
Tu crains une escalade ? Devina Ludivine.
Elle a déjà commencé.
Seignon fit claquer ses mains en se redressant.
Et s'ils les avaient tués en même temps ? Je veux dire exactement en même temps, pour être parfaitement synchro.
Ils se sont appelés, comprit Alexis.
Bien vu. On contacte tous les opérateurs téléphoniques. Je veux la liste de tous les numéros qui ont activé la borne près de la maison de Louvsienne la nuit dernière. On recherche un appel en direction de la Pologne, entrant ou sortant d'ailleurs.
Alexis fixa à nouveau les photos de la victime. Il imagina un homme petit, maigre, animé par des pulsions de mort telles que l'adrénaline décuplait sa force. Il le vit se mettre nu et s'enfoncer dans le torse béant de cette pauvre femme, les viscères répandus sur le côté. Il le vit se contorsionner pour que ses épaules rentrent. Il entendit le bruit de toute la colonne vertébrale de la morte se détendant, les côtes craquer, puis se briser sous la pression de ce corps étranger, essayant de rentrer. Comment faisait-il pour ne laisser aucun poil, aucun cheveu à l'intérieur? Les légistes ne pouvaient être passés à côté, pas trois fois. Et quel type de mâchoire avait-il pour frapper de la sorte? Tout ça n'était pas clair. Pas encore. Les réponses tomberaient lorsqu'ils lui attacheraient les mains dans le dos. Ils allaient l'arrêter. Lui et le fantôme, ils n'avaient jamais été si proches de les identifier. Ce n'était plus qu'une question de jours, peut-être d'heures.